bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Léla Cadeau-Boudadine.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin.
Oui.
Tom Villain. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau sera dans la deuxième partie. Et notre invité, Monsieur Laurent Lafitte de la Comédie Française.
Bravo. Bonjour.
Tout va bien, Laurent?
Ça va bien, vous avez la pêche?
Merci, cool. Absolument, absolument. Je ne sais pas si on a la pêche parce que c'est aujourd'hui ou parce que c'est demain la dernière. J'ai du mal.
Parce que je suis là.
Aussi.
Non, ça c'est sûr que non.
Pardon. Soyez bienvenus.
L'université du Naguier, quand même. Il s'est dit, comment je peux rattraper le coup? Je peux pas, donc je fais une
vague. Donc je vais au bout de. Ouais, je suis d'accord.
Respect ou pas?
Respect total.
En salle le 18 juillet, un film que vous portez avec Zita Enro. Vous êtes pratiquement tous les deux de tous les plans. Il y a quand même un casting avec Philippe
Girard. Ouais.
Voilà, il y a Philippe Girard, Idir Gender, Anthony Pagliotti, Achille Reggiani, Anne-Lise Heinberger et Nora Kreff, entre autres, pour ce film, Paul Chancet. Sanchez est revenu, je sais pas facile à dire.
Paul, c'est pas notre problème.
Sanchez est revenu, un film de Patricia Mazui. Alors, ce point de départ, moi, dans les premières minutes du film, je me suis dit, c'est l'affaire du pont de Ligonnès. Voilà,
oui,
c'est-à-dire ce monsieur qui a tué ses femmes et enfants, c'est quatre enfants de mémoire, je crois.
Quatre enfants et une femme de 47 ans.
Il y a.
Je sais pas, faut donner un âge.
Tu dis n'importe quoi. Il y a, je crois, 7 ou 8 ans, dont on n'a plus aucune nouvelle. On a cru qu'il aurait pu se suicider, disparaître, et puis de temps en temps. Il revient comme ça au gré de l'actualité en disant on croit l'avoir vu mais aux quatre coins de la planète et c'est exactement ce point de départ du personnage que vous jouez qui est le Paul Sanchez.
Oui c'est ça, c'est un criminel, quelqu'un qui est accusé d'avoir donc tué sa famille comme vous disiez, qui réapparaît dans la région. Il se trouve qu'en plus c'est la même région où a été aperçu Dupont de Ligonnès la dernière fois, dans le Var, près des arcs sur Argence, et ce personnage réapparaît. Personne n'y croit parce qu'à chaque fois on le signale à tel endroit. Il y a une personne qui va y croire, c'est Marion, qui est jouée par Zita Enro, qui elle va devenir vraiment obsessionnelle sur cette affaire.
Elle va même en faire une affaire personnelle. Elle est gendarme et elle va oublier même son rôle de gendarme en voulant régler l'affaire seule, en appelant ses collègues.
Oui, ça devient obsessionnel, elle devient vraiment monomaniaque sur cette affaire et elle ressemble un peu au personnage un peu d'un film comme Fargo. Alors,
ouais.
C'est très très français par contre.
Oui, parce qu'elle est un peu à côté de ses pompes.
Oui, on se dit même qu'elle est un peu bête peut-être.
Ouais, elle est pas futée a priori comme ça.
Mon personnage, il est dans une cavale mais on sent qu'il est pas professionnel, qu'il improvise tout, que tout est un peu bordélique, et puis on sent aussi une personnalité très 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 dérangée,
quelqu'un prêt à tout en tout cas, donc potentiellement dangereux, qui peut voler des voitures, casser, menacer des personnes, mal parler lorsqu'il continue de faire ses courses. Après il y a quelques portraits robots, une cicatrice qu'on essaye de voir ou de reconnaître en se disant est-ce que c'est lui que l'on a vu, et puis c'est une espèce d'arlésienne, c'est-à-dire que les gendarmes prennent pas au sérieux quand il y a un coup de fil à gendarmerie en disant on a vu Paul Sanchez quelque part.
Oui, c'est ça. On doit leur faire tous les 5 mois, il doit y avoir un nouveau Paul Sanchez qui surgit. Mais elle y croit, Marion, et elle a raison de se lancer dans cette quête.
Et quelles étaient les indications de la réalisatrice, c'est Patricia Mazui, pour incarner ce personnage, cette cavale d'amateurs, en fait, on va dire. Comment vous dépeint le personnage?
Déjà, elle me dit bien que ça va plus ressembler, pour prendre des références un peu ambitieuses, que ça va plus ressembler à un film de frères Cohen qu'à un film de Fincher, quoi.
D'accord.
C'est à la structure d'un thriller, mais elle a voulu faire quelque chose d'un peu cheap, un peu série B, avec l'uniforme bleu ciel de la gendarmerie, qui est un peu moins cinégénique que les flics américains, avec ce coin du Var qui est pas le Saint-Tropez des stars, ni la nature sauvage de la montagne, qui est cette espèce de national entre les deux, cette espèce de no man's land de zone commerciale. Voilà, elle veut jouer avec ça,
comme une ville de province tout à fait normale, sauf que votre personnage se réfugie dans les stérelles, et c'est sublime, c'est-à-dire qu'on revoit ce qu'on voit pas souvent.
C'est le rocher de Roquebrune-sur-Argence, mais c'est la même roche. L'Estérel est juste après. C'est la même roche.
Ce rouge, exactement.
Côté géologue de Nagui, là.
Mais non, parce que si tu connais un peu la région, il y a des endroits où t'as l'impression d'être dans le Grand Canyon.
Ouais, c'est vrai.
tellement c'est abrupt comme ça, il y a des mini falaises et cette couleur là, c'est sublime.
Oui, il se réfugie là-dedans et le rocher devient. On a cru d'ailleurs avant que Dupont de Ligonnès s'était réfugié là-bas. Et le rocher devient aussi un personnage à part entière et puis dans l'esthétique un peu western spaghetti que Patricia voulait donner au film aussi, ça joue un rôle important.
À la grande différence des frères Cohen, c'est que si je peux me permettre, le film est bouclé. Frères Cohen laisse souvent les choses en suspens.
Fargo, on a une réponse quand même
ou non?
Je crois. Et puis elle, on la prend aussi un peu pour une imbécile, Frances McDormand. Et puis en fait, elle
a une sorte de bon sens paysan assez exceptionnel. Ouais. Mais c'est vrai que sur plein d'autres détails, c'est pas le renard quoi
non,
de l'histoire.
Quoi. Ouais,
non, pas non plus la buse, mais.
C'est références au film. Mais
dès que t'as des références de zoologie, tu n'hésites pas.
De chasseurs.
Partage avec nous. Et en tout cas, le personnage que vous incarnez, il est aussi. On vous a pas épargné quoi physiquement.
Le type est au bout du rouleau quand même. Ouais. Donc je pouvais pas arriver en mode de pleine santé.
Donc on dort pas,
quoi.
On fait quoi on...
Non.
On se rase pas déjà.
Déjà ouais.
Jamais. Non, il faut que je dorme quand même. Sinon je travaille mal. Mais peut-être que je travaille mal en dormant aussi d'ailleurs. Mais
là, peut-être qu'on l'a jamais dit.
Peut-être qu'on va pas oser me le dire encore. Tant que les films marchent un peu, on me le dit pas. Quand ils vont moins marcher, on me dira mais tu sais t'étais pas bon en fait. Ah d'accord.
Mais j'ai dormi. Tu devrais moins dormir.
Pas sur tes lauriers en tout cas. Ok.
Joli.
Il fallait que physiquement, je me froisse un peu. Donc j'ai un peu minci. J'ai fait des petites choses aux dents, aux cheveux. Mais je voulais surtout pas qu'on voit les prothèses.
Ouais. Un regard de méchant permanent.
Mais c'est pas bon. Je veux pas tout révéler.
Il y a une grosse
surprise quand même dans le film.
Évidemment, mais il y a un côté dépressif chez le bonhomme.
Il est très déprimé.
On sent qu'il est totalement hors de la société. On ne sait pas toujours ce qu'il pense lorsqu'il croise des personnes.
Ouais.
Il s'énerve évidemment de tous les contrôles de gendarmerie. Bah, oui. On se dit, il est prêt à faire des bêtises très rapidement. Il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le journaliste de Varmatin, qui a pas grand chose à se mettre sous la dent à part une folie de Johnny Depp en voiture. Alors je sais pas d'où est venue l'idée.
Mais on s'est dit que c'était Patricia et Yves Thomas, le scénariste, s'ont dit que c'était genre de truc qui pouvait arriver dans le Var près de Saint-Tropez.
Parce qu'ils habitent là.
Il peut y avoir ce genre de fait divers quoi, une star qui se retrouve avec un
George Clooney quoi. Non, c'est pas George Clooney, c'est Hugh Grant.
Oui, voilà, un truc comme ça.
C'est une fellation dans une voiture et ça devient l'affaire du coin. Soit il faut l'étouffer, soit il faut pas l'étouffer cette affaire.
Ça plante bien le décor de cette gendarmerie.
Quelque chose à dire, Marina?
Non, fellation étouffée, haha, Daniel et moi, on a eu un petit regard complice, quelque chose de coquin qui est passé. C'est un instant, oui. Voilà.
Ouais, c'est vous qui nous avez tendu la perche.
On continue. Donc il y a cette affaire et puis il y a surtout l'envie de ce journaliste d'avoir l'affaire du siècle. Et en l'occurrence. Paul Sanchez, si...
J'ai compris l'affaire du sexe.
Du siècle.
Ah oui, on a tous 8 ans. C'est très très détendu. Complètement décomplexé.
Vous avez des gros problèmes de sexe en tout ça.
On n'a
pas tous été en Russie, on n'est pas tous à l'aise comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que vous le disiez. Parce que vous auriez pu y penser. Mais comme vous l'avez dit, c'est que apparemment il y a un sujet.
Mais c'est surtout la fin de saison, c'est une sorte de toboggan. Ça pleut de conneries.
Parce que en fait, c'est comme ce film est comme une espèce de flashback qui raconte, puis il y a une voix off qui nous accompagne d'ailleurs, qui raconte l'écriture d'un livre par ce journaliste.
Oui, c'est ça. Oui, le journaliste en a fait un bouquin, comme ça arrive parfois avec des affaires qui marquent les protagonistes. Mais oui, ce qui est marrant, moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a une structure thriller très premier degré. Et je trouve assez. Enfin, on a vraiment envie de savoir, de connaître la vérité. Et il y a des surprises. Et en même temps, c'est un film burlesque. Enfin, il y a plein de choses qui me font vraiment rire, qui sont très très décalées, mais pas du tout volontaristes. Dans la comédie, et puis une dimension sociale assez inattendue.
Le défilé de tous les problèmes dans une gendarmerie, c'est une espèce de reflet qu'aurait pu faire Striptease dans le genre reportage, en tout cas, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours des gendarmes, des dépôts de mains courantes qui sont faits, des plaintes qui sont faites.
Et puis au-delà de la gendarmerie, je trouve que Paul Sanchez, qui est censé être le grand méchant de l'histoire, crée un lien aussi à un moment... socialement, raconte quelque chose socialement.
De sa souffrance, au travail, de son humiliation au quotidien.
C'est assez inattendu parce que le film commence vraiment comme un thriller. Et voilà, j'aime bien ces différents niveaux de lecture.
Zita Enro est très présente aussi. Son personnage évolue tout autant que le vôtre, mais pas dans le même sens. Oui. Elle est en effet un peu la neuneuse d'histoire au début, et elle prend de plus en plus de dimensions, y compris dans son histoire personnelle, mais dans son enquête. À l'inverse, on peut dire que votre personnage s'humanise, contrairement.
C'est vrai que le point d'empathie se fait autant avec lui qu'est le bad guy qu'avec elle. Mais ils partagent une forme de folie tous les deux.
Ça sort le 18 juillet
Après le foot.
Exact, ça tombe bien, non ?
Plus de foot, c'est on peut retourner au cinéma.
Exactement. 18 juillet prochain, le film est signé Patricia Mazui avec Zita Enro et Laurent Lafitte. Laurent étant notre invité, ça s'appelle Paul Sanchez est revenu. Vous avez tout compris ou pas, Tom ?
Ah, plaisir.
Enfin.
J'espérais.
À votre écoute.
Coûte que coûte.
À votre...
Écoute. Coûte.
Que.
Coûte.
Anima sana.
Incorpore sano.
Et moriturit et salutent. Paul Sanchez est revenu, c'est le nouveau film de Laurent Lafitte qui évoque donc le retour de Paul Sanchez. Voilà. Qui, après avoir disparu une dizaine d'années, a fait apparition aux Arcs-sur-Argence, un magnifique village au cœur du massif des Maures. Hein, des Maures, M-A-U-R-E-S, hein, et non Maures, M-O-R-T. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceux qu'on appelait anciennement Maures ne sont pas blancs, ni arabes, ni berbères, mais bien des Noirs. Des Noirs d'Afrique, voilà, car n'oublions pas que Maures signifie noir, sombre, et désignait les populations noires de l'Afrique septentrionale, l'actuel Maghreb, donc les Sarrasins. À noter également que la tête de Maures, que l'on retrouve sur le drapeau corse, hein, tête de Maures, qui vient de Mauritanie romaine, hein, car ce sont des races qui aiment dominer les autres, tel Othello, alias le Maure de Venise, hein, Othello qui n'était donc pas blanc de peau, loin s'en faut. Et oui, les Noirs aiment dominer, nous l'avons vu durant les guerres tribales. Sans transition, évoquons la thématique du film, le massacre de la famille par son chef de clan, Paul Sanchez, qui est donc revenu. Et oui, une famille très énervante, ça peut tous nous arriver. Hein. Il avait peut-être ses raisons aussi, ce brave Sanchez. Mais bref, évoquons plutôt la disparition. Nous avons Didier au téléphone. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors Didier, on a fait beaucoup de mal à quelqu'un ?
Non.
Mmh. Alors qu'est-ce qui... Pourquoi ?
Je suis un peu triste.
Ah, à la bonne heure.
Hein?
Non, je dis à la bonne heure, c'est une expression pour dire heureusement.
Heureusement.
Eh bien, qu'on soit là, Didier. Hein? Visiblement, vous n'êtes pas assez grand pour gérer votre chagrin tout seul. Donc, c'est qui donc qui s'est barré sans prévenir, Didier ?
Ben, ma femme.
Aïe.
Oui, c'est pas de chance.
Non, je dirais parce que je viens de me cogner le petit juif. Enfin, le coude, parce qu'on n'a plus le droit de rien dire. Donc, je vous écoute, Didier. Allez-y.
Ça va pas.
Ma femme est partie sans laisser de traces.
Mmh.
Et alors que j'étais en déplacement professionnel, parce que je suis commercial pour une entreprise de Velux, je pense qu'elle est, enfin, elle est sûrement partie avec son amant.
Mmh. Et
bah c'est tout.
Et oui, une histoire assez simple et en même temps tellement commune.
C'est pas très gentil.
Oui, mais oui, Didier, vous connaissez l'adage, hein, qui va à la chasse. Merci Didier, bon courage. On a une autre auditrice. Bonjour, vous êtes ?
Bonjour, Margaret.
Bonjour Margaret. Qui a disparu, Margaret ?
Alors c'est mon mari, Philippe.
Ah, c'est embêtant. Alors, autant perdre ses clés, ça va, on peut faire un double, hein, que son mari à tout hasard, il va pas à la chasse.
Si, pourquoi ?
Non, c'était par rapport à l'auditeur d'avant, mais bon, c'est pas grave. C'était quand ?
La chasse ?
Non, que votre mari a disparu. Margaret, un petit peu de nerf, s'il vous plaît, hein, on y va.
Oui. Alors, c'était en 2014 et depuis, aucune nouvelle. Mais ce matin...
Bah oui, je me doute. Mais si vous aviez eu des nouvelles, vous ne nous auriez pas appelé en même temps. Ça, c'est... Et donc, depuis 4 ans, vous avez préféré nous appeler plutôt que d'aller chez le psy, alors ?
Mais je suis psychothérapeute. Mais ce matin...
Alors, attention, Margaret, hein, l'automédication, ça peut se retourner contre vous. Hein. Et d'ailleurs, comment faites-vous ?
Comment je fais ? Quoi ?
Pour être à la fois assise et allongée sur le canapé, parce que du coup, il faut se lever très rapidement pour répondre à ses propres questions. C'est pas...
Non, mais je suis pas psychanalyste, hein, mais je suis psychothérapeute et je voulais...
Oui, mais enfin bon, c'est ballot quand même, en tentant l'automédication, vous auriez pu faire une belle économie. Et lui, que fait-il dans la vie ?
Il est médecin généraliste et nous travaillions ensemble.
la mauvaise idée, Margaret, la mauvaise idée. Ne cherchez pas plus loin, il est parti à cause de ça. On se voit au réveil, on se voit au midi et on rentre chez soi le soir, on veut se détendre et sur qui qu'on tombe, encore la même personne, pas de peau. Je pense que Philippe était arrivé à saturation, tout simplement. Depuis 2014, plus aucun signe de vie alors.
Non, mais alors justement, j'écoutais votre émission et j'ai eu l'impression d'entendre sa voix.
Et oui, Margaret, oui. Peut-être des hallucinations auditives, peut-être. Alors sachez que l'usage du cannabis est interdit, Margaret. Hein. Oui. On le dit pour nos auditeurs, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. C'est caca boudin. Hein.
Oui, non, mais attendez, j'ai entendu mon mari. Je sais ce que je dis dans votre émission. Mmh. Là, celui qui parle à côté de vous, il prétend qu'il est Laurent Lafitte. Philippe, c'est toi, Philippe?
Non, il me fait signe que non. Il agite sa main très, très rapidement, comme s'il voulait trancher la gorge de quelqu'un.
Philippe, réponds-moi. Je sais que c'est toi, Philippe. Tu peux pas partir comme ça. Le chien te réclame.
Écoutez, Margaret. Écoutez, Margaret. On garde son calme. Hein. À côté de moi, il y a Nagui. Qui a sûrement fait plus d'une fois le coup de je donne pas de nouvelles et de partir comme un voleur, mais c'est pas le débat et ce n'est pas votre mari. Et puis il y a aussi Laurent Lafitte, mais c'est tout, je vois pas.
Non, pas du tout, c'est Philippe de Beaulieu, je vous dis. Il fait semblant d'être Laurent Lafitte et de toute façon, Laurent Lafitte, il viendrait pas dans votre émission parce que depuis que monsieur est à la Société française, il est passé dans un autre monde. Mais c'est mon mari, Philippe de Beaulieu, et ça fait des années qu'il se fait passer pour Laurent Lafitte. Philippe, réponds-moi s'il te plaît. Philippe, anima sana.
Et merci Margaret de nous avoir appelé.
Oh
la semaine prochaine, nous aborderons un thème beaucoup plus léger. Comment se débarrasser d'un corps? D'un corps de pied, évidemment. Bonne journée et bonne vacances.
Oh, bien. Oh,
bravo.
Frédéric Sigris, que je remercie, et Zabou Bretman, que je remercie mille fois aussi.
Elle est encore en ligne, j'espère, Zabou Bretman.
Ouais, elle est là.
Ah, Zabou. Zaza, merci.
Mais c'était pas moi, là, tout à l'heure, c'était Margaret de
Beaulieu. Ah, c'est ça.
Bien sûr,
monsieur. Jusqu'au bout. Je suis là totalement par hasard, moi.
Nous avons réussi à joindre Zabou Bretman juste après le sketch. C'est la magie du téléphone.
Mais c'est ça, comment vous avez fait? Elle fait 600 trucs par jour.
C'est incroyable. Ça va, Lolo?
Ouais, ça va, ma Zaza. Quand est-ce qu'on revient?
Bientôt, on se voit bientôt. Hein.
Oui.
Bon, je t'embrasse.
C'est exactement. Bon, non, Zabou.
Attends,
vous n'allez pas partir pas comme fini. Ça. Parce que la question posée par Laurent, c'est évidemment celle qui brûle toutes les lèvres de France Inter.
Quotidiennement.
Et des auditeurs, évidemment.
Quand?
Mais quand allez-vous revenir? Et est-ce que même ça pourrait être une fiction, une pièce de théâtre,
comédie musicale?
Ouais, je sais pas.
Jamais.
Jamais, vous m'entendez? Bah, si, on aimerait bien les retrouver, ouais. On sait pas encore exactement sous quelle forme. On aimerait bien sortir un coffret avec les meilleurs, mais ça met du temps. Mais je sais pas pourquoi c'est autant de temps à se décider.
Mais, ouais. Oh, trop d'intérêt en jeu, sûrement.
Oui, c'est ça, bah, ouais.
Non,
tu connais la maison.
Bien sûr.
On va faire ça, Lolo.
Mais est-ce qu'il y a d'autres formes possibles que la radio?
Oh bah oui, il y a le cinéma, il y a le cinéma, le théâtre, ouais bien sûr, ouais, il y en a plein.
Et donc vous y pensez?
À chaque fois qu'on peut pas se voir sans en parler. Quoi.
On va parler, c'est terrible.
Très bien. Ça c'est une très bonne nouvelle en tout cas.
Qui tourne autour de ça. Bon, je vous embrasse.
Plein de bisous, merci. Bisous et nous continuons avec Laurent Lafitte de la Société Française. La bande originale avec vos oreilles qui ont sifflé, Leïla Katourboudadi, lorsqu'on vous a dit que Laurent Lafitte revenait dans l'émission.
Oui, quand je pense à vous, Laurent, je pense à votre carrière aux Français, à la Société française, donc à votre filmographie, et je pense aussi à votre liberté de choix, notamment avec ce film.
Bonjour, je m'appelle Joseph Klein. Pour mon nouveau film, j'ai voulu me faire un patron du CAC 40.
Alors, votre fortune est estimée à près de 4 milliards d'euros.
Là, d'abord, quitte à se projeter, c'est pas 4 milliards, c'est 4 milliards et demi.
Bienvenue dans le monde merveilleux du néolibéralisme. Pas de bol. C'est aussi le vôtre. Michel Gagnan, symbole de l'excellence à la française.
Bienvenue à la maison.
Bon, c'est un peu le désordre.
Avec les enfants, on a toujours l'impression de vivre comme des bohémiens. Vous voulez voir quelque chose?
Vous avez quoi?
Tout. On a tout.
C'est moi, Michel G, milliardaire, maître du monde, de Stéphane Kazandjian. C'est un faux documentaire. Enfin, expliquez-nous, racontez-nous un peu le principe. C'est complètement barré, en fait.
C'est un faux documentaire. Je joue un journaliste qui suit un grand patron. Voilà, c'est une espèce de,
incarné par François-Xavier de Maison.
Voilà, absolument. Et je suis une espèce de Michael Moore un peu français, quoi. Voilà.
Et vous le suivez comme ça pas à pas pour ce documentaire.
Ouais, un beau, merci, c'est gentil.
Un Michael Moore.
Alors, par rapport à Michael Moore. Je crois que c'était un compliment gratos comme ça.
Mais ça l'est.
Merci, Nagui.
Il
n'y
a rien de gratos. Ouais. Vous incarnez un journaliste de gauche, anticapitaliste.
Ouais,
donc
plutôt,
face
ouais.
à ce gros patron, ce grand patron hautain. En gros, c'est un projet complètement perché.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ce projet? Pourquoi vous vous retrouvez là-dedans?
D'abord, je suis content que vous en parliez parce que le film n'a pas énormément marché en salle alors qu'il est super et je l'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que quand on est comédien, on est interprète hein, par définition, donc on est toujours un peu dépendant des choses qu'on va nous proposer. Et quand on peut s'exprimer en restant dans sa fonction d'interprète, ouais. c'est très très agréable quoi. Si aussi artistiquement, ça vaut le coup. Donc là, il y avait tout était réuni.
Et est-ce qu'en ce moment, enfin depuis quelques années, on vient vous chercher vraiment pour tout? C'est-à-dire que souvent les comédiens nous disent au départ, c'est assez étriqué, c'est un peu souvent les mêmes rôles. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que on pense à vous pour beaucoup beaucoup de choses? C'est-à-dire que les réalisateurs font preuve de beaucoup d'imagination, ce qu'on espère d'eux.
Oui, c'est vrai que je reçois des rôles très très différents. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à vous proposer les mêmes personnages ouais. que au moins celui qui vous a
fait connaître.
Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais.
Il y a quand même pas un point commun que l'on retrouve dans l'absurde, dans un sens de l'humour très particulier que vous portez tellement bien. Vous retrouvez pas ça, que ce soit, non mais j'allais dire aussi bien Paul Sanchez est totalement barré ouais. mais on le sait par sa folie meurtrière.
Zabou avec Zabou.
Autant évidemment voilà, l'enchaînement était tout trouvé. Autant dans ce doc aussi j'étais en train de me dire mais qui d'autre pour le porter, pour l'incarner, pour être crédible dans ce côté barré.
Là c'est le film.
Et puis la paire va bien aussi avec FX quoi.
Non c'est sûr, mais c'est vrai qu'après il y a ce que il y a mon travail d'écriture où je peux encore aller plus loin et m'exprimer encore plus moi-même.
Ce qui était le cas
sur le film de Casanova, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Est-ce que vous intervenez, est-ce que vous pouvez réécrire des scènes éventuellement
Ça peut sur Papa ou Maman par exemple avec Marina, ouais. on a beaucoup réécrit. Mais c'est un processus d'appropriation aussi pour mieux jouer. C'est pas juste un putsch d'auteur, c'est pour mieux jouer. Ça reste dans une démarche d'acteur. Et pardon.
En revanche, oui, quand vous écrivez.
Quand j'écris moi, c'est que ce soit mon one man ou à votre écoute avec Zabou. Là, je peux vraiment parler de mes angoisses, de ce qui m'effraie, en restant dans la fiction et en restant dans les personnages. Mais d'ailleurs, Philippe de Beaulieu, on s'est pas mal inspiré de Ligonès aussi. On a imaginé dans certains épisodes, on comprend à demi mot qu'il projette. De
faire un massacre.
Ouais. Ouais, d'enterrer toute la famille dans la okay. sous la terrasse quoi.
Donc en fait Paul Sanchez c'est logique quoi.
C'est pas la piscine, c'est la terrasse.
Paul Sanchez finalement c'est dans la continuité quoi.
C'est comme une espèce d'angoisse récurrente ou de figure d'angoisse. Je pense qu'on a tous c'est pour ça qu'on est fasciné par les faits divers et par les mêmes faits divers. C'est qu'on est tous fascinés par les mêmes périls.
Et qu'est-ce qui vous nourrit justement ceux qui sortent
faites entrer l'accusé
oui, entre autres, ouais.
ceux qui sortent des normes, c'est-à-dire
plutôt j'aime bien la monstruosité quoi. J'aime bien ce que la monstruosité raconte de non monstrueux justement, de ce qu'elle raconte de l'humain. Ça c'est intéressant et la comédie c'est une manière de rendre ça digeste et d'y prendre du plaisir. Mais
que tout être humain peut devenir un monstre d'une manière assez rapide et basculer dans
ça j'en suis persuadé. Ouais.
J'ai quand même l'impression que vous avez souvent des rôles de salaud. Je pense à Au revoir là-haut, par exemple, où vous jouez un salaud magnifique.
Ouais, Au revoir là-haut, c'est un vrai salaud.
C'est un vrai salaud.
Il est dur à sauver, lui.
Ouais,
Il est dur à sauver parce qu'il est dans le calcul, il est machiavélique. Et puis, il jouit de ses méfaits, du pouvoir qu'il a sur les autres. Mais ce qui était drôle, ce qui faisait aussi que j'avais envie de l'incarner, c'était qu'il a quelque chose de très théâtral. Il se met en scène, et donc ça c'est marrant à interpréter. Si c'est juste un salopard comme ça, bon, peut-être moins intéressant.
C'est amusant parce que vous dites on a du mal à le sauver, lui, tellement le personnage est, est odieux, et on parle d'un comédien qui défend un rôle.
Oui, c'est-à-dire,
voilà, c'est cette notion de même les salauds doivent être bien joués, doivent avoir une part d'humanité.
Oui, oui, parce que si on joue la vie qu'on a du personnage, je pense qu'on est à côté. Mmh. On peut soi-même dans la vie, on n'incarne pas la vie qu'on a de soi-même ou la vie qu'ont les autres. Il faut juste être premier degré.
Sincère dans son
Sincère, sincère à fond. Ouais. Mais même en comédie. En comédie, je pense que l'acteur n'a pas à prendre en charge la comédie. Il doit juste prendre en charge la situation.
C'est le personnage qui est drôle. C'est la situation qui est drôle.
Oui, la situation. Mmh. Ouais.
Ça s'appelle Paul Sanchez est revenu. C'est le 18 juillet au cinéma avec Zita Enro, Philippe Girard, Idir Shender, Anthony Pagliotti, Achille Reggiani, Anne-Lise Einberger et Nora Krief. Laurent Lafitte étant notre invité. J'ai juste oublié de préciser que le film est réalisé par Patricia Mazui, qui avait fait Sport de filles, mais il y a quelques années, il y avait un bon bout de temps qu'elle n'avait pas.
Ça faisait 5-6 ans, je crois. Et bien, oui, elle a fait des films super. Travolta et moi, Saint-Cyr. Très beau film. Ouais.
Voici l'humeur de la belle, de la ravissante. Ouais, elle s'est apprêtée en public. Tout le monde l'a vu se changer, se préparer, enlever ses boucles d'oreilles. Marina Rollman. Aucune pudeur. Aucune pudeur.
Alors les amis, dans une semaine, vendredi 6 juillet, la France comptera des centaines de milliers de bacheliers de plus. Et je veux dire à ceux qui n'y sont pas encore passés, les secondes, les premières, les collégiens, Daniel Morin, n'y allez pas, pauvre fou, c'est un piège cette histoire de diplôme. Vous pensez que c'est chiant le lycée, mais on vous ment, la guerre c'est dehors. Moi-même je détiens une matu, c'est comme un bac français sauf qu'on apprend aussi des langues étrangères. Et je vous le dis, ça ne sert à rien, que des embrouilles depuis que j'ai mon bac. Avant mon bac par exemple, j'avais pas besoin de boire du vin sans sulfite, tu vois. Tu m'aurais demandé mon avis à 17 ans, j'aurais dit mais oui, mais mets tous les sulfites, glaçons, Baileys, ont fait une sangria irlandaise, tu vois. Aujourd'hui, si la personne qui a fait mon vin n'a ne serait-ce que vu du gluten pendant le trimestre qui précède les vendanges, je me tape des migraines d'un autre monde, j'entends les couleurs, je demande à des gens que je connais pas dans la rue de m'achever, enfin c'est terrible. Et puis surtout, futur bachelier, vous êtes au courant qu'une fois que vous avez votre bac, va falloir travailler. Vous savez ça ? Ah, moi, on m'avait rien dit. On m'avait dit, fonce, c'est génial, ça va être super, la vie active. Alors, la formule vie active, j'aurais dû me méfier parce que tu sens que ça cache un truc. C'est pas la vie agréable, la vie chouette, la bonne vie. La vie active. On dirait les euphémismes dans les pubs pour les couches pour adultes, tu sais. Il y a toujours un slogan un peu vague. Avec Téna, j'ai confiance en mon tonus. Moi, je vois surtout quelqu'un sur une plage d'Aquitaine qui se pisse dessus en faisant la vie avec son petit-fils, hein, et que ça fait rigoler. Alors bravo le tonus. Non, la vie active, c'est passer 30 ans en open space. Tout le monde bosse en open space aujourd'hui, c'est l'enfer. Enfin non, au début, tu crois que c'est chouette. Le premier jour, on te fait visiter. Alors il y a une nana qui est là. Ouais, ici, on voulait une ambiance de travail hyper cool. On n'avait pas envie de créer des hiérarchies, des barrières, on voulait un workflow dynamique, on ne voulait pas payer pour des cloisons. Ouais. Et le problème en open space, ce n'est pas que tu travailles avec d'autres gens, c'est que tu vis avec tous les états d'âme, les envies, les peines, les questions, tu partages tout ce que vivent tes collègues. Moi, j'ai bossé dans un bureau, j'avais une collègue, toutes les 10 minutes, je vous jure, elle était là. T'es moi ou il fait un petit peu faim ? Un petit creux, quelqu'un ? On grignote ? Non, un petit truc ? Non, Cécile, t'as mangé à 8h, tu vas remanger à midi. Entre-temps, t'es assise, t'as pas faim, t'es triste, Cécile. C'est comme ça, t'es triste. Alors, travailler au début, tu te dis c'est cool, alors qu'en vrai, t'es bloqué dans des réus pour débriefer des réus, pour remettre en place une prochaine réu avec un boss tout moche qui dit Macron quand il jouit et qui te raconte des trucs pendant des heures. PowerPoint à l'appui pour masquer le vide, et des trucs genre nous, ce qu'on veut implémenter, ça se décline en 3 points : data, blockchain et risk management. Toi, t'es là, tu saignes du nez, tu dis mais alors il y a un malentendu parce que moi là-bas je voulais être Sailor Moon, donc comment fait-on au niveau d'implémenter le sceptre lunaire, comment
j'adore.
À quel moment tout s'est déglingué, c'est dans l'autre dans le fond il continue, alors une stratégie d'asset long terme qui permettrait un écosystème où la disruption remplace l'innovation, toi tu commences à partir en vrille, dire des trucs dans ta tête genre franchement là si je me lève et que je lui lèche le visage je pense pas qu'il me vire, je crois que je me fais un petit mois d'arrêt maladie, je pars en Dordogne, je reviens, tout le monde est gentil, ils ont un petit peu peur aussi, du coup peut-être que Cécile elle arrête de me tanner avec ses goûters. Franchement, vas-y, j'y vais, je le fais, je le lèche. Bon, bref. Non, tout ça pour dire que des embrouilles, le bac, n'y allez pas. Alors qu'en vrai, les plaisirs de la vie, il n'y a pas besoin de bac pour en jouir. Il y a plus besoin d'argent que de bac d'ailleurs. Franchement, entre un lycéen qui a un petit business stable de babysitting et un bac plus 7 qui finit pas le mois, moi je pense que je sais qui a la vie la plus douce. Alors si vous pouvez encore redoubler, bande d'inconscients, et les recaler, angoissez pas trop, prélassez-vous dans un long été plein de sulfites, vous aurez bien assez le temps pour les migraines après.
Merci, Marie-Laure.
La bande originale, Nagui, sur France.
ça donne presque envie de ne pas avoir son bac, en fait.
Mais oui, c'est d'où les longs étés.
À quoi ça sert? Dans quelques instants, nous allons recevoir Brendan Kemet, qui est journaliste spécialiste de faits divers, qui a notamment travaillé pour la presse quotidienne avant de se mettre à écrire ses propres livres sur notamment des cavales, sur des SOS police et scènes de la vie quotidienne. Et il doit s'y connaître en meurtrier en cavale. Je me demande même s'il n'est pas lui-même un meurtrier en cavale. Enfin, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, la bande originale de Laurent Lafitte en musique fin des années 90. Vous y écoutiez Sinatra.
Fly me to the moon.
Oui.
Let me play.
C'est un titre qui n'est pas sorti en fin des années 90. J'étais très en retard.
Non, mais c'est le principe de cette bande originale, c'est que vous pouvez écouter Piaf en 2018, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi Sinatra et vous voyez quoi comme ambiance, comme image quand vous entendez cette musique?
Déjà, moi j'étais fasciné par les États-Unis, par le cinéma américain, et puis toute cette ambiance, le Rat Pack.
Tous les mafieux qui faisaient de la musique.
Ouais, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, non mais franchement, j'étais fasciné par ce mode de vie. Ou en tout cas, ouais, je me souviens, j'étais allé voir son dernier concert en France au Palais des Congrès, tout seul. Wow. Personne ne voulait venir avec moi.
Mais à quel âge, enfin?
Je sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir. Ça devait peut-être mettre un peu avant.
Il y a une vingtaine d'années, mais.
Facile, ouais.
Aucun de vos potes n'a voulu venir avec vous.
Bah non, parce qu'il n'y avait que moi qui écoutais Sinatra à l'époque.
Ouais. Ni même une copine, vous avez pas.
Non, j'étais tout seul.
En draguant, disant
bien. Non, j'étais tout seul. Et je me souviens, il était rentré sur scène. Évidemment, tout le monde s'était levé direct. Et il avait dit: non, mais rassiez-vous, c'est bon, j'ai une moumoute et un dentier, quoi.
Ah ouais.
En anglais.
Ils vendent du rêve.
Mais c'était
direct.
Il ne détruisait rien en disant ça. Je dis bon, alors quand tu crées un mythe et que même en disant ça tu le détruis pas, c'est que vraiment, spécial.
Et vous, dans ces années-là, fin 90,
Sinatra, ouais. Il mort en 98, donc ouais. ça devait être l'un de ses derniers concerts.
C'était un tout dernier concert. Ouais. Ouais.
Et fin 90, début 2000, vous sortez du conservatoire, Laurent, vous aspirez à entrer dans une compagnie ou à jouer pour du théâtre subventionné, je crois.
Ouais.
Vous parlez souvent dans une interview d'une audition, d'un casting que vous avez passé avec Pascal Rambert.
Ah oui.
Et ça a l'air d'être un moment un peu charnière, quoi, dans votre tête.
Ouais, non, mais disons que...
Pascal Rambert, alors qu'il était à la tête il n'y a pas si longtemps du T2G, et qui a mis en scène, qui écrit des textes magnifiques.
J'adore son travail.
Voilà, qui fait souvent jouer sur scène Audrey Bonnet. On avait vu Emmanuel Béart aussi.
Il a travaillé avec la troupe aussi du Français, au Vieux-Colombier, la saison. Ouais, j'adore cet auteur.
Emmanuel Béart et Denis Podalydès.
Ouais, Podalydès. Aussi.
En sortant du conservatoire, il y a ce qui s'appelle le JTN, le Jeune Tête Nationale. Ça accompagne les comédiens et les comédiennes pendant 3 ans. Mmh. Et pendant ces 3 années-là, on vous met en relation avec des professionnels qui cherchent de jeunes acteurs. Et vous êtes, quand vous êtes engagé, le JTN prend en charge une partie de votre rémunération. Donc, il y a beaucoup de metteurs en scène subventionnés qui viennent chercher leurs jeunes acteurs ici. Mais du coup, on se retrouve à passer des auditions. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un théâtre qui me plaisait, mais pour lequel j'étais pas forcément fait, en tout cas à ce moment-là, quoi. Et j'ai senti là.
Vous êtes dit chouette, je vais me rouler dans la boue et je vais éructer sur scène. Et non. En fait, bah non.
Non, mais tant mieux, tant mieux. Mais non, d'ailleurs, le seul metteur en scène qui m'a engagé quand j'étais au JTN, c'était en fin de 3e année de JTN. Donc vraiment, j'avais pas bossé pendant quasiment 2 ans, je pensais changer de métier. Et c'est Gilles Bourdet, qui est un metteur en scène qui faisait beaucoup de ponts d'ailleurs entre le théâtre privé et le théâtre subventionné, qui était vraiment sur une ligne un peu entre deux à l'anglo-saxonne. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu pile ce qui me correspond.
Quand vous dites j'ai failli arrêter, vous auriez fait quoi d'autre?
J'ai commencé à écrire, en fait. Comme je travaillais pas assez, j'ai commencé à écrire. Donc je me serais peut-être dirigé plus vers l'écriture. Ouais.
On va continuer avec la musique que vous écoutiez dans les années 2008 sur scène ou à côté vous écoutiez.
La playlist de Lover, quoi. Pardon, mais ça ressemble à ça quand même. Alors la suite.
Non plus que Barry White pour finir.
On est au Novotel Le Briançon.
Jean-Claude Pichot, c'est devenu un
canapé en Sky.
Là, je m'insurge parce que vous ne pouvez pas mettre Denis Attaway dans cette catégorie-là. Mettez Laurent Lafitte où vous voulez.
Oui, c'est pas de problème sur un canapé en Sky à l'Ibis de Vierzon. Pas de soucis. Ouais, Denis Attaway, ouais. Ouais.
Et pourquoi ça?
On est dans la même fibre, ouais.
Bah pareil, ça, le dentier, la perruque.
Mais vous attendez,
non mais je sais pas.
De façon, vous attendez quoi de la musique quand vous écoutez de la musique, quand vous dites je vais mettre de la musique dans une pièce, vous attendez quoi?
J'adore quand ça chante très bien, mais qu'on s'en rend pas compte, et quand il y a des mélodies. Donc je suis là, c'est vous dire si je suis passé à côté du...
Donc vous n'êtes pas...
pas mal de trucs.
Vous ne cherchez pas le rythme, vous ne cherchez pas le...
Non, si, après, mais en premier, c'est vraiment la voix et la mélodie, moi, qui me bouleverse.
Et 2008, vous êtes sur scène, justement, on parlait de l'écriture, de votre façon aussi de vous raconter. C'est Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, c'était le nom du spectacle, produit par Farrugia, Dominique Farrugia, co-écrit avec Cyril Touvenin. Et c'était... j'ai la sensation dans le parcours, c'est qu'à un moment il faut y aller, quoi.
Ah oui, c'est ça. Oui. On va attendre.
On attend plus les rôles.
On attend plus d'être sauvé. On se sauve soi-même. Et puis si en plus ça peut être drôle, tant qu'à faire.
Et c'était trash. C'était drôle et trash en fait. C'est aussi ça votre petite.
Oui, mais à moi trash, je sais pas ce que ça veut dire.
Non, c'était drôle.
C'est peut-être.
Vous ne mettez aucune limite.
Si, enfin, je me mets pas des limites, elles s'installent naturellement. C'est à partir du moment où je trouve un truc pas drôle ou plus vulgaire que drôle, mais c'est des limites, mais c'est pas une règle, c'est pas une charte, c'est pas quelque chose que je m'impose, c'est au feeling.
Et c'est un spectacle où vous incarnez plusieurs personnages, donc c'est un spectacle de comédien qui glisse des blagues, mais c'est vraiment le plaisir de jouer.
Oui, c'est l'incarnation, quoi. Ouais. C'est l'incarnation. C'était pas du stand-up, c'était même pas beaucoup c'était pas tellement de la vanne. C'était vraiment des personnages, des longs sketchs de 10 minutes, 10, 12 minutes.
Il y avait même un sketch sur un comique.
Il y avait un sketch sur un comique de stand-up, mais un mec qui fait du stand-up mais qui est pas bon, quoi. Alors ce qui était drôle, c'était d'écrire un sketch qui soit suffisamment drôle pour être crédible, mais suffisamment nul pour créer des bides et qui a un malaise. Alors, il y avait un rire à deux temps. Il y avait d'abord le bide de la vanne. Et après, les gens riaient du bide. Donc, c'était assez jouissif.
On retrouve, la patte dans votre écoute aussi. C'est-à-dire les moments de gêne.
Oui, les temps, les faux temps, l'arythmie. C'est intéressant.
Et parmi cette galerie de personnages, lequel est particulièrement attachant pour vous? Parce que vous parlez souvent de Granny, de cette grand-mère, mais aussi de Claude.
Ouais, Claude, j'aime bien.
Racontez-nous Claude un tout petit peu.
Claude, c'est un jeune homo qui a une vie sexuelle très très débridée, mais un idéal romantique très fort, et qui est un peu en contraste, quoi.
Qui mime certaines pratiques.
Voilà, qui va dans des bars.
Comme la fistinière, par exemple, on donne des indications.
Il a dit une autre destination week-end, peut-être.
Mais je crois que ça a fermé, la fistinière.
Ouais.
Je crois.
Je sais pas.
Je sais pas. Moi, ils m'ont renvoyé ma carte. Donc, j'en ai déduit que.
Carte,
ils m'ont viré. Je ne sais pas.
Vous n'avez pas été.
Ils m'ont rond.
Mon rond de serviette.
On a qu'à les appeler.
Carte de membre, ils m'ont renvoyé mon rond. Eh ben, avec tout ça.
Voilà, ça donne une tonalité.
C'est
monsieur Villa qui m'a.
C'est technique.
En 2014, vous écoutiez. Alors là, accrochez-vous.
Ah oui, d'accord.
Mais ça reste crooner, hein, quand même.
Bah en fait, c'est ou des voix noires ou des blancs qui ont des voix de noirs.
Ou des morts.
Ou des morts. Ils sont tous morts. C'est vrai.
Love is a losing game. Vous êtes, par exemple, vous allez voir, vous étiez allé voir Amy Winehouse?
Non, j'ai jamais vu sur scène. Grand regret.
Ouais. Je me suis dit, elle a fait des concerts en se barrant au bout d'un quart d'heure parce qu'elle en avait marre aussi.
Vrai,
donc, grand regret pour ceux qui y étaient aussi.
Ils sont tombés sur le concert en intégralité, quoi. Ouais. En 2014, c'est une succession de films, c'est L'écume des jours. Ouais. C'est Tristesse Club. Pourquoi
Parce que j'ai une journée de tournage.
Ouais, mais enfin bon.
Non, mais c'était sympa de bosser avec Duris et Gondry.
Gondry, ouais.
J'imagine, c'est quoi vous avez une envie de continuer avec Gondry? La rencontre, elle se passe comment?
Oui, c'est sûr que quand je vais sur un plateau avec une journée de tournage, c'est que vraiment j'ai envie de participer.
Et on est déçu d'en faire plus?
Bah non, parce que moi,
avec Gondry, j'aurais bien aimé tourner plusieurs semaines.
Évidemment, mais je le savais dès le départ. Là, le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, qui sort à la rentrée. J'ai tourné 7 jours, mais j'ai tellement aimé l'exercice de l'État, et puis incarner Louis XVI, ça paraît tellement bizarre que j'y suis allé. Même si c'était 7 jours, je me dis jamais que je vais refuser un rôle parce qu'il est très court, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on va chercher au-delà d'un personnage ou d'une rencontre? On cherche quoi aussi sur un plateau de tournage?
Un personnage et une rencontre.
J'ai mauvais fond.
Qui aime bien, châtie bien. J'imagine, mais ou pas.
Si.
Non.
Je vous châtiais pas.
Non, mais en fait, je sais pas.
Non.
Mais
non, non. Ah, vous voyez que j'avais raison.
Non, mais je me demande toujours, on accepte parce qu'on veut rencontrer un réalisateur, ouais, et dans l'espoir de faire partie de sa famille ou qu'il vous voit autrement.
Non, c'est pas. C'est...
On va chercher une pratique, non, aussi.
Oui, oui, non, après, c'est pas. C'est pas je peux pas accepter un rôle qui m'intéresse pas juste, ouais, pour rencontrer un réalisateur, par contre.
Non, mais on travaille, je me dis.
C'est ensemble.
Vous, ouais, retournez jamais à l'école, vous continuez. En fait, vous pratiquez de rôle en rôle, oui, de film en film, avec les choix, les bons choix, les moins bons choix qui font qu'on on crée une,
oui,
carrière.
C'est ça, ouais,
en,
oui,
gros,
c'est ça.
Il, ouais, y a aussi, il y a un,
y compris des premiers films aussi. Accepter, ouais, de ce qui a été le cas avec Elle l'adore, mmh, de, oui, Jeannery.
Ouais, moi c'est la pratique qui m'intéresse, ouais, c'est savoir comment on continue, excuse-moi, à pratiquer un métier quand non mais c'est vrai qu'on pratique simplement à l'occasion de films.
Oui oui, je comprends. Bah, c'est-à-dire que moi j'ai en plus le théâtre, donc en fait je travaille tout le temps, en fait je suis tout le temps en train de, ouais, de faire mon métier, et notamment à la Comédie Française, comme ce ne sont pas les acteurs qui décident de la programmation, on se retrouve aussi confronté à des œuvres qu'on aurait peut-être, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, qu'on connaît même pas.
Ouais.
Et du coup, on est, c'est ça aussi que j'aime bien dans la troupe, c'est qu'on est un peu aussi, on garde cette espèce de curiosité un peu d'étudiant. C'est qu'on se retrouve à découvrir des choses qu'on nous propose et qu'on n'aurait peut-être pas pensé à choisir.
On vous a vu récemment dans l'hôtel du Libre-Échange, je me souviens, où vous, ouais, jouez, ouais, ce espèce de magnifique...
Ouais. Pareil, pas très présent non plus, quoi.
Bah non, mais
vous avez beaucoup de lignes.
Bah non, mais dans la troupe, il y a d'une saison à l'autre, on a des rôles plus ou, ouais, moins importants, on a des... Ouais. Oui, la même année, j'ai fait effectivement un second rôle dans le théâtre du libre-échange, et à côté, j'étais dans la règle du jeu, où là, je quittais pas le plateau. Ouais. Ça dépend des spectacles. Mmh. Ouais.
Revenons donc à ce film qui sort le 18 juillet. Paul Sanchez est revenu avec vous. Marlane Kemet, merci de venir à ce micro. Tout va bien?
Bonjour, oui.
Ouais, fais gaffe, bah, méfie-toi,
ah, mais
parce que...
Il est costaud de chez, ouais, costaud.
Je pense que...
Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je dis serial killer, je vais se méfier. Non, blague à part, vous êtes spécialiste de faits divers, vous avez...
Il y a un peu les bras du boucher des Ardennes, je dis ça, ouais, comme ça, mais...
On dirait un enfant
russe. N'ennuie pas trop.
Non, je suis juste journaliste. Ah,
voilà, journaliste de faits divers, spécialisé là-dedans. D'abord, qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait divers?
Ah bah c'est... Il y a tout dans le fait divers. Il y a la vie, la mort, on entre dans des milieux, on découvre des milieux différents à chaque fois.
Ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent Lafitte, c'est que tout le monde peut, en une seconde, basculer de l'autre côté de la ligne.
Certains, oui. Peut-être pas tous, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui basculent très facilement.
La nature humaine est suffisamment fragile, en tout cas, pour... que chacun se retrouve un jour dans les faits divers, alors que rien ne prédestine à ça.
Oui, on peut être victime.
Que
déjà.
Ce soit le
on
milieu, l'éducation, victime, ouais. Ouais, c'est ça, oui. Mmh. Oui.
Ça touche tout le monde.
Rien ne nous protège de faits divers.
La vie, oui, tout le monde. C'est pour ça que ça intéresse tout le monde finalement, puisque tout le monde est concerné.
Alors, pour en revenir au film, Paul Sanchez est revenu. L'histoire qui est proche du pont de Ligonnès, c'est-à-dire d'un assassin ou d'un tueur ou serial killer, comme on veut, en cavale. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'ils sont recensés? Est-ce qu'on sait? On sait que du pont de Ligonnès, on sait toujours pas où il est, lui.
Non.
Ah, j'avais hésité.
Il a failli me lancer. Il est chez moi.
Non, on sait pas où il est, mais on sait pas s'il est vivant, en fait. C'est la grande difficulté.
Il n'avait pas renvoyé une photo en disant je suis vivant et c'était bidon?
Non, pas lui, non. Non, non.
Et est-ce que c'est vrai que certains journalistes ont plus d'infos que la police sur du pont de Ligonnès?
Aujourd'hui, ça m'étonnerait parce que vu la longueur des investigations, puis il se passe plus grand chose. Hein. Je crois que l'année dernière, on allait le chercher dans un monastère,
oui,
parce qu'il y avait.
Ils ont mis beaucoup de temps, voilà, à aller au monastère.
Oui, mais parce que le témoignage, il est assez. Oui, mais parce que enfin bon, ils vont pas se précipiter.
Non, mais dans le coin, ils en parlaient beaucoup, les gens,
ouais,
les locaux, je crois.
Oui, mais enfin,
on est encore dans le sud de la France,
ouais,
avec ce monastère. Et puis il y avait aussi un devoir. Enfin, on n'avait pas la possibilité pour la police de rentrer dans le monastère et d'interroger ceux,
ah ouais,
qui ont fait, bah ouais, vœu de silence. En plus,
c'était un peu délicat.
Un peu délicat,
ça,
oui,
se tient, ouais.
Un peu délicat.
C'est une bonne planque.
Mais ça aurait été très malin de sa part. Ouais, ouais, exact. Mais ça n'a pas, ouais, été le cas. Donc, alors, combien de meurtriers? Est-ce que c'est,
ah, c'est très difficile à dire parce que il peut y avoir des gens qui sont en cavale depuis des dizaines d'années et des gens qui sont arrêtés. Enfin, puis non. Sans doute plusieurs centaines, je dirais, ou plusieurs dizaines de meurtriers, mais est-ce qu'il y a des je pense pas qu'il y ait vraiment des statistiques sur le nombre de meurtriers. Il y a le nombre de personnes en cavale, le nombre de personnes, ouais, qui sont recherchées.
Et l'idée de ceux qui peuvent commettre des atrocités, puis disparaître et rester impunis, on a une idée d'une proportion entre les fugitifs qui se font gauler et ceux que l'on n'arrive pas à retrouver?
Alors c'est hyper, très difficile aussi à préciser, mais c'est vrai que généralement les sur des crimes de sang, souvent sont pas des gens très organisés, à moins que ce soit dans le cadre du milieu où là effectivement les gens, les auteurs peuvent disparaître assez facilement. Quoi. Mais l'affaire du pont de Ligonnès est très particulière parce que beaucoup de mes confrères disaient au départ, c'est pas un type de la pègre, donc il n'a pas de réseau. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est le fait qu'il n'ait pas de réseau qui le rend insaisissable. Parce que les policiers travaillent avec des
indices.
Il n'y
a pas de balance.
Ouais, voilà. Au bout d'un moment, ouais. Les informations reviennent. Alors les gens ils savent à peu près, il y a des personnes qui sont recherchées depuis une trentaine d'années. Les policiers savent à peu près où ils sont, mais sont parfois assez difficiles à atteindre à l'étranger.
Mais rassurez-nous quand même, 90% des cas sont, élucidés.
Non. Oui, globalement, oui. Il y a quelques personnalités, disons, en cavale, quoi, voilà, mais très peu, d'autant plus que...
Vous avez des personnalités, ça devient des people pour
des
vous.
Des personnalités, oui, du crime, des gens, notamment dans le banditisme.
Majoritairement des hommes,
connus, quoi.
C'est plutôt des hommes,
ah, oui,
ou pas?
Oui, très majoritairement.
Il
n'y
a pas encore la parité, il faut qu'on lutte, hein, faut qu'on rétablisse tout ça.
On s'en occupe, on
comment
s'en occupe.
Comment ça bien faire, ça?
Alors, à part du pont de Ligonnès, qui est le ou qui est la
star.
Plus recherché?
La Alors, la personne la plus recherchée, actuellement, serait plutôt dans du terrorisme, des personnes autour des attentats parisiens de 2015, notamment des gens comme les frères Klein, pardon, de Toulouse, aussi quelqu'un comme la compagne d'Amélie Coulibaly qui a disparu en Turquie juste après les attentats, quoi. Donc ça, c'est vraiment des gens qu'il focalise, mais ils sont un peu hors d'atteinte puisqu'ils sont en Syrie ou dans ces zones-là. Et puis après, vous avez quelques personnalités encore du banditisme, notamment un personnage qui s'appelle David Gras, qui est recherché depuis à peu près 7 ans pour des attaques de fourgons blindés et de transport de fonds. Voilà.
Et qui a le record de la plus longue cavale dans les personnalités du...
Alors officiellement, il n'y a pas vraiment de label, mais je dirais que c'est un homme qui s'appelle Ahmed Othman, qui est un truand du sud de la France, qui est en cavale depuis 25 ans.
Waouh, voilà. 25 ans.
25 ans.
Quelle santé. Mec, c'est un jogging. Hein.
On peut se demander s'il est encore recherché, tellement c'est ancien finalement. Enfin,
c'est lequel votre préféré?
Ahmed Othman, je pense, c'est réussir effectivement dans le monde moderne à échapper.
La bonne question, c'est est-ce qu'ils sont encore recherchés après 25 ans?
En fait, souvent les personnes recherchées le sont par des policiers qui sont obsédés par c'est exactement ça comme dans le film effectivement, ouais. Souvent c'est une personne qui va dire je veux me le faire, exactement, ouais. Non mais souvent et quand ces personnes là quand ils partent à la retraite, etc., souvent c'est un peu bon, c'est à moins d'intérêt, les nouveaux leurs successeurs sont pas forcément aussi intéressés
et
par ces
restons cas. Sur le film justement, est-ce que comme dans le film vous qui êtes journaliste pouvez mener une enquête et l'élucider alors que la police l'avait plus ou moins abandonné.
En tant que journaliste,
oui.
Non, parce qu'on n'a pas, on a des moyens d'investigation très faibles. On peut pas placer des gens sur écoute, intercepter des, comme elle le fait d'ailleurs, des emails ou des choses comme ça.
C'est un problème de budget là.
De budget, oui. Non, plutôt de possibilités juridiques de le faire.
D'accord.
Voilà. Mais il peut y avoir, il y a un documentaire qui s'appelle The Jinx. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On suit quelqu'un qui est accusé, un documentaire où on suit quelqu'un qui est accusé de meurtre. Et pendant le documentaire, on découvre la vérité. C'est le documentaire qui va déclencher la vérité.
Donc c'est le travail du journalisme qui a...
Ah, complètement, puisqu'ils sont en avance sur l'enquête. J-I-N-X, je crois.
D'accord.
Et ils ont un élément de preuve qui n'est pas au dossier, que eux ont découvert, et ils ne savent pas quoi en faire. Parce que là, justement, pour la première fois, ils se retrouvent dans un... Au-delà de leur rôle de journaliste, ils se retrouvent à détenir une preuve, et ils ne savent pas quoi en faire. Ils le gardent en outil journalistique, et ils vont confronter leur sujet à cette preuve-là, ou ils la remettent aux enquêteurs pour faire avancer l'enquête. Et c'est un vrai questionnement à ce moment-là, quoi, pour eux.
Et quand on parle de cavale, on pense toujours à l'étranger, à l'ailleurs. Est-ce que c'est un cliché? Et surtout, est-ce qu'il y a une sorte de coopération active entre tous les États pour retrouver des gens qui sont fichés, qui sont accusés, comme des Xavier Dupont de Ligonnès, d'avoir commis une horreur?
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la coopération européenne fait que c'est très difficile. Je pense, moi, si j'étais en cavale, je resterais pas en Europe parce que toutes les polices.
Qu'est-ce que vous conseilleriez?
Amérique du Sud, non?
Je dirais plutôt le continent africain. Ouais. C'est quand même une destination qui est assez assez sûre et qui permet encore de...
Assez sûre, pour les bandits, pour les
conseils. Ouais, on est en train de donner des conseils quand même. À votre écoute.
Voilà, notamment, bon, il y a...
Donc tu es femme et enfant, puis partez pour le continent africain.
Merci beaucoup, quand tu seras cité dans un procès, on sera content.
Ouais. Il faut prendre quoi comme monnaie? Des euros, des dollars?
C'est une bonne question. Des dollars, probablement.
Des dollars, ce que je pense.
Est-ce que, Brendan, est-ce que le milieu entre guillemets a changé, c'est-à-dire tout à l'heure vous parliez de réseau, tout ce qui était mafia avec presque une élégance dans leur comportement. Non mais
code d'honneur.
Il y avait des choses que les voyous ne faisaient pas. Maintenant on a le sentiment que tout le monde peut être voyou du jour au lendemain, voire terroriste en louant simplement un camion et en assassinant des centaines de personnes. Mais est-ce que la mafia, l'organisation criminelle existe?
Oui, encore. Il y a des organisations criminelles qui assistent parfois des détenus en cavale, enfin des personnes en cavale, ouais. ou des évadés. C'est arrivé notamment avec Antonio Ferrara qui s'est évadé de Fresnes et qui avait vraiment une logistique autour de lui, des gens qui étaient même chargés de nettoyer les endroits où il passait, d'enlever ses empreintes, etc. Donc il y a des choses comme ça très, 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 très organisées, oui, toujours.
Et la technologie, justement, progresse dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien pour permettre aux assassins d'être en cavale que pour les policiers de les retrouver, puisque maintenant tout est d'abord il y a des caméras partout dans tous les centres commerciaux, et ça aussi on le voit dans le film, la possibilité de se faire repérer par des portables, par
des cartes bleues,
oui c'est ça.
Oui, mais en fait souvent les policiers vont recourir aux bonnes vieilles méthodes qui est de surveiller les proches, en fait, hein. Généralement les trois quarts des personnes qui sont retrouvées des années plus tard, c'est parce que tout d'un coup des policiers ont dit tiens, on va aller voir la belle-mère, la sœur, etc. Et puis ils mettent sous écoute pendant des années. Et puis un jour, souvent, il y a un coup de fil.
Ils appellent leur belle-mère.
C'est à ça que tu cavales. C'est à ça que tu connais un serial killer.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ne supportent plus la cavale et qui se rendent parce qu'ils supportent plus ce mode de vie?
Fatigué. Psychologiquement, c'est compliqué.
Oui, tout à fait. Oui, il y a le cas d'une personne qui a été jugée là ce mois-ci à Toulouse, là, Gilbertin, qui était il était dans une histoire depuis 30 ans. Alors lui, il était pas vraiment, c'était pas des vrais voyous, donc c'était des gens issus du un peu de alternatif. Donc lui, il a changé complètement de vie. Il était marchand disque à Lisbonne. Donc là, je pense que les policiers avaient aucune chance d'aller chercher un marchand disque à Lisbonne.
Un ancien chanteur de punk, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que vivre des années loin de chez soi, loin de ses enfants, ça devient intenable. Et puis
Portugal, 2 semaines, ça va, mais bon, après...
Mais quel idiot. Vous travaillez sur quelle piste en ce moment? Vous écrivez un livre, vous êtes sur une enquête précise?
Oui, tout à fait, sur des histoires de bandits, mais plutôt dans le football. Ouais, donc,
De bandits dans le football?
Donc c'est autre chose, mais on reste toujours sur les bandits.
Ah bah, demandez des renseignements à Nagui, il les connaît tous.
Ça m'intéresse. Non mais qu'est-ce que vous appelez des bandits dans le football?
Des joueurs.
Disons les liens.
Des matchs achetés, des agents véreux.
Voilà. Un peu tout ça, les liens entre les footballeurs et les truands, quoi. Voilà.
Donc beaucoup de présence à Marseille, quoi.
En effet.
Ah ouais. Et ça, c'est pas dangereux d'enquêter là-dessus, parce que à un moment, en tant que journaliste, vous n'avez pas vraiment de protection. Vous allez poser des questions, j'imagine, à des endroits où on n'aime pas trop qu'on vous voit, non?
Heureusement, on vit dans un pays assez démocratique. Je pense que c'est surtout faire attention à ce qu'on écrit, parce que souvent c'est pas les choses les plus gênantes pour des voyous. Ça va pas être leur braquage ou les assassinats qui vont les gêner. Ça va être sur des affaires personnelles, en fait, leur maîtresse, etc. Alors ça il faut un peu éviter. Quoi,
et est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des criminels comme dans, je sais pas, Mindhunter, où on va rencontrer ces criminels pour les comprendre, pour discuter avec eux, ou même on peut tisser une forme d'amitié avec eux?
Est-ce que vous êtes Jodie Foster?
En fait, des criminels, oui, dans le monde du banditisme, oui, il y a pas mal d'anciens voyous, de voyous qui sont toujours un peu en activité, qui aiment bien raconter leur vie, quoi. Donc,
vous avez déjà couché avec la maîtresse d'un voyou?
C'est
l'enquête, Nagui. Ne me coupez pas.
Non, c'est ce qu'on retrouve dans le film justement. Paul Sanchez est revenu, c'est-à-dire ce besoin. Il faut que je parle. La phrase revient d'une manière récurrente. Ça peut être aussi psychologiquement une pression justement de cavale et d'avoir besoin de raconter sa vérité.
Ouais, sans doute, mais c'est vrai qu'il y a un écrivain américain qui s'appelle Edward Bunker qui a un peu parlé de son. Il disait justement, il faut pas se vanter de quand on est un criminel professionnel, il faut pas parler, il faut pas avoir d'archives parce que c'est le début de la fin. Et effectivement, il y a beaucoup qui ont cette tentation. Il y avait notamment un participant présumé là du fameux casse de Nice de Spadjari dans les années 70, qui 40 ans après a écrit un livre. Donc il a pas pu s'en empêcher. Donc il y a une forme. En fait, il disait, Bunker, il cherche de la reconnaissance dans un milieu où il ne devrait pas y en avoir.
Brandon Kemet était notre invité, auteur notamment de Antonio Ferrara, Le Roi de la Belle, d'SOS Police, de Scènes de la vie quotidienne, tout ça au Cherche Midi. Merci beaucoup, Brandon, d'être venu. Vous pouvez maintenant retirer votre masque, vous ne risquez plus rien. Vous êtes libre à temps. Guy Pasturo sera là.
Bonjour.
Vous n'aimez pas du tout l'été, vous?
Non, parce que je pense que le pantacourt et les tongs sont des inventions aliens lancées par les Bogdanov pour ridiculiser la race humaine. Et quand on sera tous devant notre glace à nous regarder en short et à dire « j'aimerais creuser », paf, ils vont nous envahir et nous exterminer. L'été, Nagui, c'est la saison la plus vulgaire de l'été. De l'année. De l'été. Comme vous mettez la phrase dans le sens que vous
voulez.
Adieu.
Toi aussi, fais ta phrase
chez
toi. Voilà.
C'est normal, c'est participatif.
Laurent Lafitte est notre invité jusqu'à midi et demi. Et c'est la bande originale sur Inter. Soyez les bienvenus avec Lila Kadoudadi.
Bonjour à tous.
Marie Marolle, Marie Pasturo.
Bonjour.
Tom Miller.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Et notre invité, Laurent Lafitte.
Bravo.
Bonjour.
De la Comédie Française.
Ouais, non. Pas obligé de le dire à chaque fois.
Non, mais c'est bien écrit gros, en tout cas, dans le générique de fin.
Hein,
c'est
ah bon,
ça fait tout l'écran.
Bah oui.
Ça fait tout l'écran.
C'est ce qu'on voit en premier sur l'affiche. Hein.
Paul Sanchez est revenu. Le film sortira le 18 juillet avec Zita Enro, qui a le rôle principal avec vous. D'ailleurs, je me rends pas compte si on peut présenter ça comme étant un film qui se voit par le prisme de la gendarme qu'elle incarne et qui fait tout pour attraper le voyou, le serial killer que vous êtes, ou par justement le fugitif que vous êtes qui se fait rattraper par le gendarme. Il y a un équilibre qui est assez intéressant.
Oui, parce que c'est pas que par son prisme à elle, parce que les deux parcours sont montrés en parallèle en fait. Mais il y a des moments où le spectateur va avoir une longueur d'avance sur elle.
C'est ça. Ouais. Et inversement.
Ouais.
Et inversement sur vous aussi. Et partie de l'histoire vraie de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a tué femme et enfant, et puis qui n'a toujours pas été retrouvé. Ça date de à peu près une dizaine d'années, 8 ans maintenant,
8 ans, ouais.
que c'est arrivé. C'est exactement le cas de Paul Sanchez. Ça se passe également dans le sud de la France. Ce criminel disparu que l'on aperçoit, c'est une espèce de furet. Il est passé par-ci, il est passé par-là. On ne sait pas trop si c'est lui, c'est pas lui. Et en même temps, il se cache pas trop. Il met pas de fausses moustaches, de lunettes noires.
Ouais, il prend beaucoup de risques.
Non, ouais, c'est ça.
On a l'impression presque qu'il a envie de se faire choper. Quand
ouais,
même.
Il va faire des courses dans une station service.
Oui, c'est
par
absurde,
exemple, ce qui est quand même complètement absurde.
Ouais. Bah, il va dans un centre commercial retirer de l'argent. C'est blindé de caméras.
Oui, non, s'il est vraiment, c'est un peu un branque, quoi. Mais en même temps, comme il y a quand même un vrai désespoir et une vraie dangerosité, il est inquiétant, quoi.
Il est même inquiétant dans ça. C'est l'une des premières scènes du film. Il veut acheter une voiture. Dans la manière dont il analyse la voiture. Les pare-soleil, les miroirs, le toit ouvrant. Il y a un côté presque
monomaniaque.
On sent qu'il a un problème. Ouais.
Ouais, enfin, ouais, et puis surtout, cette voiture symbolise ce qu'il a, parce qu'il a, c'est au début du film, on peut dire, la carte est refusée, il n'arrive pas à payer l'avance pour la voiture. Ça représente un peu tout ce qu'il a pas réussi à mettre en place matériellement, quoi.
D'autant qu'il explique en plus puisqu'il a dit ça au vendeur, en tout cas, et le vendeur ne l'a pas cru, que c'était pour faire plaisir à sa femme qui est un peu en dépression, qui pleure tout le temps. Donc, il s'est dit, un 4x4, ça va lui faire plaisir.
Oui.
Ça, alors, voilà, il y a cette cavale de ce fugitif, de Paul Sanchez. Et puis, il y a la gendarmerie qui fait, voilà, gendarmerie locale. Elle est varoise, elle aurait pu être dans n'importe quelle autre région, avec sa vie quotidienne du voisin qui fait du bruit, de la personne qui est inquiète pour son mari, de l'autre qui a reçu un coup par des chasseurs.
Oui, il y a pas mal.
C'est, voilà, il y a un truc, un reflet de la société.
Ouais, c'est ça. Là. Ouais, les petites, la vie ordinaire d'une gendarmerie de province.
Avec la réaction des gendarmes aussi, ne nous embêtez pas avec ça, ou voyez pas que je m'occupe de la dame qui pleure. C'est plus important, il y a une dame qui pleure, je m'occupe d'abord.
C'est ça,
je vais après, alors que le mec il est en train de pisser du sang.
Presque comme si, de toute façon, c'était trop gros pour eux, quoi. Et puis il y a aussi une espèce de concurrence avec le GIGN.
Qui débarque. Hein,
voilà, le GIGN débarque au bout d'un moment quand ça devient vraiment sérieux. Et là,
pour apprendre aux gendarmes comment attraper le fugitif.
Voilà. Et là, c'est un peu les mêmes rapports qu'entre le FBI et les polices locales américaines.
Et comme on l'a dit avec Brandon tout à l'heure, on va pas tout dévoiler non plus, mais c'est vrai que l'un des moments clés du film, qui reste un thriller avec un suspense, avec une révélation qui se passe dans les dernières secondes du film, c'est le besoin qu'il a de se raconter. Et tout à l'heure, il a dit c'est la dernière chose que doit faire un fugitif, puisque je rappelle qu'il a donné donc les 5 conseils essentiels pour tuer, fuir et ne pas être attrapé. Si vous l'avez raté,
il faut l'écouter en podcast. Voilà.
Mais pas rester en Europe. Hein,
on va publier un coffret avant. avec les solutions pour fuir. Mais blague à part, c'est vrai qu'il a un besoin de parler, de raconter sa vérité.
Ah oui, il faut qu'il s'exprime. Et puis quand il le fait, c'est vraiment des espèces de logorées, quoi. C'est d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire le film.
C'est dur à jouer, ça, seul dans des vignes sous la pluie, jouer avec un portable.
Ouais, c'était pas tant les conditions climatiques que l'écriture, en fait, parce que c'est une écriture qui est pas très naturaliste. C'est une écriture assez théâtrale.
C'est un monologue, vous n'avez aucun regard, aucune écoute, aucun partenaire avec qui échanger.
Oui, on sent vraiment que ce type a ressassé ça. Vous savez, comme quand on ressasse un discours qu'on a l'impression de ne pas avoir eu le temps de faire ou qu'on a l'impression de ne pas avoir inventé au bon moment, et on l'a ruminé, et quand on a l'occasion de pouvoir dire enfin ce qu'on a sur le cœur, d'un coup c'est très fluide, c'est très écrit, plus littéraire que si ça sortait spontanément, et on le lâche avec une énergie de soulagement et une rage. Lui, il est vraiment là-dedans, quoi.
Un vrai suspense, une belle histoire d'amour aussi.
Une gendarme empathique, parce qu'on dit qu'elle est un peu simple d'esprit, en tout cas. Mais elle compense par une forme d'empathie qui lui permet de mieux comprendre la situation, d'être davantage à l'écoute, d'être pas forcément là où on l'attend au quotidien, mais un peu extraordinaire dans sa façon d'appréhender le crime.
Oui, puis en plus, elle a en plus un enjeu un peu sentimental
avec son journaliste.
Qu'elle refuse, parce que ça la déconcentre de son enquête. Mais...
Et puis, il y a de l'humour, on l'a dit.
C'est burlesque.
Il y a un point de vue social aussi qui est intéressant. Et puis, il y a ce véritable suspense jusqu'à la fin du film. Signé Patricia Mazoui, ça s'appelle Paul Sanchez est revenu. Ça sort le 18 juillet prochain, 12h13. L'heure du crime, non, l'heure de Tanguy Passion.
Oh oui.
Tanguy Passion, vous ne lisez pas la presse People, vous ?
Non, puisque la vie des stars m'indiffère, à part la vôtre, Nagui, car je suis corporate. Mais même là, ça a très peu d'intérêt. On vous voit surtout dans des stades russes avec votre femme, cette dame qui a la chance de parcourir votre corps de ses doigts. Ce qui est réalisable en 12 secondes, puisqu'il n'est pas immense. Tous deux en train d'attendre que les Bleus relisent leur contrat de travail sur lequel il est stipulé qu'ils doivent jouer au football. Sauf l'été, car l'été, c'est la saison des cons. C'est où on se vide la cervelle, où on mate Energy 12 en sifflant des bières, où on assume de porter un pantacourt et de pisser dans les buissons. L'été, c'est la période la plus vulgaire de l'année, celle des hits débiles qui font se frotter des pommées avinées dans des campings de seconde zone. Jamais la Zoubida n'aurait cartonné en novembre, jamais Secret Story n'aurait eu lieu en février. L'été, on se relâche, et l'article sur Juliette Armanet dans Télérama, on s'en sert juste pour allumer le barbecue afin de faire cuire les merguez qui jutent comme nous on le fait derrière l'église avec la fille de la boulangère, dans un coït désespéré qui pue l'envie
d'oublier la mort qui se rapproche. Bref, vous l'aurez compris, l'été n'a pas de sens. Sauf si on est Puff Daddy, parce qu'on a un yacht au large de Cannes avec des filles à gros seins. Et des potes à gros seins aussi, parce que ce sont des ricains nourris au burger XXL avec 8 steaks transgéniques. Et donc on passe un été 100% poitrine, ce qui est l'autre nom de l'Éden. Alors moi-même, l'été, je deviens une loque à l'activité physique aussi peu intense que celle du castor qui n'a pas de dents. Et niveau cérébral, pareil, je débranche tout. Fini le type avisé qui dépote punchline sur punchline, suscitant la jalousie des autres humoristes. Tex, les Baudins, mais aussi des gens qui écrivent moins bien, comme Gaspard Proust. L'été, une carte postale avec écrit à Ostende, quand il y a de la moule, on a la frite. Je suis mort de rire. Je lis donc la presse People, la seule que je comprenne, pour voir qui des Boudou ou des Smet va empocher le magot à Johnny. Et avec quelle actrice couche Cyril Lignac. Et cette année, j'ai pris de l'avance parce que je suis claqué. Je comprends Jean-Pierre Foucault qui fait une émission par an et le reste du temps fout sa tête dans le grille-pain pour toaster ses joues. La quotidienne, c'est un enfer. Dès hier, j'ai donc feuilleté Voici, Closer Public, pour mater de la cellulite et de la névrose de star. Et je vous ai trouvé plein d'infos people.
Mais à quoi ça va servir et nous servir ces infos?
Eh bien, à discuter avec vos amis, Nagui, parce que l'été, tout le monde se met en veille. Même Michel Onfray jette Philosophie Magazine à la benne pour se concentrer sur la chute de reine Pamela Anderson. Bah ouais, mais il fallait bosser en cours d'EPS, Mimi, au lieu de lire Spinoza. Aujourd'hui, tu seras avec elle, loser. Donc, première info. Hier, Kim Kardashian a posté une photo sur Instagram d'elle-même, parce qu'elle ne sait pas qu'avec l'iPhone, on peut photographier aussi d'autres gens, accroupie en string. Alors, le truc tient par miracle. Les ficelles sont tendues comme les câbles de la grand voile du Belém quand il y a un vent de force 28. Là, si sa fille est à côté, que le string cède et lui arrive dans la face, elle se retrouve avec le physique d'Albator. Elle pose dans son dressing, avec derrière elle tous les vêtements dont elle ne se sert jamais. C'est comme si Ribéry posait devant une bibliothèque. Deuxième info, vu sur le site de gala, Diego Maradona, lors d'un match de foot, a tourné sur lui-même, fait des doigts d'honneur, hurlé avant de s'évanouir. Il a aussi sniffé le ballon du match par réflexe et s'est injecté dans le bras le Fanta qu'il avait pris à la buvette. Bref, là, je vois pas où est l'info, c'est son attitude normale.
Ouais, c'est sa vie
normale. Voilà, c'est s'il se pose dans la position du lotus qu'il faudra s'inquiéter. Troisième info, Pure People révèle que Melania Trump, quand elle avait 17 ans, l'âge qu'a son visage aujourd'hui, a fait une colloque en France avec Victoria Silvstedt qui tournait les lettres à la roue de la fortune.
Non.
Si, ensuite, elle a rencontré Trump, elle n'a donc encore jamais été confrontée à un QI. Enfin, quatrième info, la princesse Charlène, en interview dans Point de vue, l'organe de propagande des fins de race terminée à l'inceste, affirme que ses jumeaux qui ont 3 ans et demi sont hyperactifs. Alors non, en fait, c'est juste qu'ils vivent à Monaco, où il n'y a que des vieux qui végètent. Donc dès qu'un gosse crache sa tétine en bougeant un orteil, niveau impact, c'est comme si une fanfare de mec en train de convulser jouait du David Guetta au tambourin. Voilà, j'arrête. Pour le reste, je vous laisse vous informer vous-même. N'ayez pas honte, vous travaillez toute l'année, sauf Nabila qui n'en branle pas une. Enfin, la formulation n'est pas heureuse. Bon, alors, profitez de l'été pour vous abrutir. Auditeur d'Inter, ma petite loutre. Pendant 10 mois, on t'en a fait bouffer de la culture. On t'a juste mis une émission avec Kev Adams un moment pour que tu puisses souffler. On t'en voudra pas si pendant 60 jours, tu mets ton ciboulot sur pause. Tu crois que Nagui, il écoute mes chroniques en juillet-août? Bah non, il part sur des textes moins riches. C'est pas le dernier à s'enquiller un petit CD best-of des vampes. C'est vieux, Vous savez, c'était de l'humour communautaire de deux femmes voilées.
J'ai donné.
Comme Menel, mais en moins groovy au niveau du flow. L'été, les corps sont nus, offerts au regard de l'autre. Alors si on peut se rassurer en constatant qu'Amel Bent aussi a des varices, ça nous fait du bien. Moi, à chaque fois que je vois Bruel torse-poil dans Voici, ça me rassure et je reprends des pitchs au chocolat, au nombre de 27, en me disant qu'on est tous pareils. La presse people, c'est nul, c'est moche, c'est vulgose, comme l'été, l'atroce saison des claquettes et des festivals de rock où Axel Rose, des Guns, glapit tel un rat qui voit débouler sur la route Vincent Bolloré dans la dernière Autolib en circulation. Vivement l'automne, putain.
Merci, Tony Basson, et demain la dernière.
Nagui sur France Inter.
Demain, nous avons l'émission spéciale avec Patrice Lecomte et Nicolas Soufflet pour fêter le 60e anniversaire du jeu des 1000 euros. Et nous serons tous évidemment au rendez-vous, et Tanguy Pastureau y compris, pour cette dernière avant une quille gentille, puisque nous reviendrons le 27 août. Déjà.
Une quille gentille.
Une quille gentille, oui, voilà. Parce qu'elle n'est pas énorme. Tu
c'est
vois,
pas c'est... une maxi-quille.
Non. Non, c'est même pas 2 mois, tu vois.
Ouais. Ça, c'est bien.
Toi, en plus, tu vas bosser tout le mois d'août.
Ouais, mais avec grand plaisir.
Tu pars.
Vous serez pas là.
Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Paul Sanchez est revenu, un film où vous incarnez donc un bonhomme qui fuit, un fugitif, un criminel qui se retrouve presque, même carrément, à déraciner des plantes pour pouvoir manger, à boire des flaques d'eau pour pouvoir subsister. Ce côté expérience extrême, c'est d'abord, ça vous attire ou pas?
Ah oui, 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 beaucoup. Ouais, ouais. Bah, dès que je peux faire des choses qu'a priori je suis pas censé
faire dans votre quotidien.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais, j'adore. Ouais.
Au point de faire des émissions d'ailleurs qui encouragent, qui invitent comme ça des personnalités à partir et à vivre dans situation de.
Non, mais j'adorerais faire rendez-vous en terrain inconnu, mais sans caméra. Donc je pense pas que ça va.
Ça va être hyper limité. Ouais, comme
faut le pitcher. Ça va non, pas mais intéresser, faut oser le pitcher. Moi, ouais. Je pense qu'il faut le proposer.
Mais en même temps, il va y avoir des coupes de budget à France Télé, ça peut les intéresser.
je peux le proposer à mon agent de voyage. Quoi.
Tu connais Frédéric Lopez, tu pourrais le présenter à Frédéric Lopez, Daniel.
Mais absolument.
C'est tout, rien de plus.
J'ai appelé Frédéric Lopez, je lui ai suggéré.
Tu vas pas plus loin, dur. Est-ce que Patricia Mazoui, dans ce film, n'a pas cherché que le fait divers autour de vous? Elle a voulu extrapoler, s'intéresser à...
Ah oui, je pense, oui, je pense
à
que
tous les caractères.
Oui, vous parliez de série B tout à l'heure, oui. C'est intéressant de se dire qu'on va faire un film sur un homme en cavale qui a quand même tué toute sa famille, oui. Donc
qui est à bout de nerfs.
Le principe de départ est pas complètement drôle, et de se dire tiens, je vais le traiter sous l'angle de la série B et injecter du burlesque.
Parce qu'il y a ça, je pense que quand un type prévoit d'assassiner toute sa famille et qu'il va acheter une pelle et des sacs de chaud, ouais. Il est obligé d'aller au Castorama de la zone commerciale, et ça se trouve quand il achète sa chaud, il y a Abba dans les haut-parleurs qui passe Mamma Mia, et dans toutes les situations il y a du burlesque
dans la radio, dans la bagnole, il y a une chronique humoristique, et on se dit tiens, je viens avec ça. Non, mais c'est vrai.
Absolument. Mais oui, donc il y a du burlesque tout le temps, il suffit juste de le repérer et de s'en amuser, quoi.
D'accord, mais la limite du burlesque, est-ce que vous imaginez que vous sortiez de la comédie française et que quelqu'un vous demande un autographe, et que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès qui vous demande un autographe. C'est-à-dire quelle est la limite pour vous du burlesque? C'est-à-dire,
je sais pas si c'est burlesque, là, c'est flippant, ouais, c'est super angoissant. Mais ouais, là, c'est... mais je pense que je le reconnais.
Vous comprenez que si vous serrez la main de quelqu'un qui se prétend ou qui est fan, vous ne savez absolument pas ce que cette même main a pu faire avant.
Ça, c'est sûr. Bah oui, mais ça, c'est
valable pour tout le monde.
Non,
hein,
je pense.
Je suis d'accord.
Vous avez peut-être fait un selfie avec Émile Louis.
Oui,
c'est possible.
C'est possible.
On va attendre la fin de l'émission pour le faire, nous. Le selfie en question. Non, et puis il y a tout ce que l'on peut fantasmer autour du fait divers. C'est-à-dire que chacun aussi s'imagine des choses, et que ce soit d'ailleurs les gendarmes ou que ce soit peut-être le fugitif lui-même.
Oui, il y a une fascination double, parce que soit on imagine que peut-être on pourrait un jour, qu'il y a ça dans chaque humain, et c'est vertigineux, mais en même temps, comme le vide, ça attire. Et il y a aussi un autre effet où dans le fait divers, on se dit ouf, c'est pas à moi que ça arrive, quoi.
Oui, c'est comme le théâtre, ça touche à quelque chose d'universel. Ouais. Quand moi je regarde Faites entrer l'accusé, par exemple, j'ai une grosse passion Faites entrer l'accusé. Ouais, voilà, je me fais des soirées Faites entrer l'accusé. Bah,
c'est
voilà.
Cool, ça. Mais non, parce que tu veux pas avoir des amis, plutôt.
Non, ça va aussi. Mais parce que je trouve que finalement l'histoire, elle est assez basique. C'est des histoires auxquelles on peut s'identifier au départ. Situation, il a une maîtresse, il s'entend pas avec son frère, il y a un problème d'héritage.
Non, mais enfin, voilà. Trop sur ta vie. Surtout,
c'est pas
le sujet. Un peu appuyé.
Moi aussi, je suis un peu embarrassé.
J'essaie de continuer ou pas. Et donc, en fait, finalement, voir tous ces drames-là de la vie, c'est une sorte de catharsis aussi, comme au théâtre, parce que ça nous arrive pas à nous. On se dit, les pauvres, c'est horrible.
On est protégé de ça. Mais il y a un mot allemand pour Schadenfreude. Ça pouvait que être...
Les Allemands qui donnent un mot. Ça veut dire quoi, Schadenfreude?
Se réjouir du malheur des autres.
Enfin, se réjouir. Pas se réjouir, c'est être heureux que ça ne vous arrive pas à vous.
Ouais.
C'est un soulagement dans...
Donc ça met à distance, et on se dit, en plus, ça repousse. C'est comme un côté un peu incantatoire, quoi. Ça sera loin de moi, parce que je l'ai vu sur un écran, c'est pas ma vie.
Voilà. Ça va pas pouvoir repousser plus longtemps un autre drame de la vie. Daniel Mont.
Voilà qui est bien trouvé. Ah, ça sent bon la fin, les amis. Et qui a-t-on gardé pour la bonne bouche avant demain, Patrice Lecomte? Laurent Lafitte, bienvenue à vous, grand acteur que vous êtes, Laurent. Laurent, vous venez pour un film grave et angoissant à la fois.
Paul Sanchez est revenu. Paul Sanchez, un homme recherché depuis 10 ans, soupçonné d'avoir fait disparaître sa famille, sa femme et ses 4 enfants, et qui réapparaît d'un seul coup. Et pourquoi angoissant? Eh bien, parce que, comme Paul Sanchez le dit, je suis Sanchez. On est tous Sanchez.
On a tous quelque chose en nous.
De Paul Sanchez, eh bien, voilà, cher Laurent, cher grand artiste, cher public, cher auditeur, nous aussi, ici, on a notre Paul Sanchez. Oui, absolument. Bon, un degré moindre, hein, mais c'est quasiment la même intrigue. Un homme recherché, disparu depuis longtemps, dont on était sans nouvelles, et qui a fait du mal autour de lui, et sans qu'on s'y attende, et est revenu dans nos vies. Bande annonce. France Inter, la Fédération Française de Football, et Kalachnikov Prod présentent Nagui Sanchez est revenu. Il avait disparu depuis 6 jours. Personne ne savait où il était passé. Du jour au lendemain, il avait laissé famille, radio, télé, maîtresse, amant, sans nouvelles. Et puis sorti de nulle part, il revient. On l'aperçoit dans le studio 621 de France Inter. Nagui Sanchez, connu comme Paul pour avoir des qualités très spéciales.
C'est un malin, c'est un retors, c'est un pervers.
Oui, il était en Russie avec comme objectif satanique détruire le moral de l'équipe de France. Le football. Et ça marche. Arrivé avec dans ses bagages moult drogues, il s'en prend pour commencer à la tête pensante du groupe, celui qu'on surnomme prof, le charismatique Didier Deschamps, à qui il fait fumer joint sur joint. Puis il s'attaque à Antoine Griezmann, la star de l'équipe surnommée Simplet, à qui il fait découvrir les joies du poppers. Résultat de son travail de sape physique, mardi 26 juin 2018, face au Danemark, les Français font n'importe quoi. Des passes dans le vide, des courses dans le mauvais sens et un sourire idiot affiché en permanence sur leur visage en sueur. Pendant ce temps, les Danois courent comme des crétins dans tous les sens, ouais. En hurlant en danois. Ce qui fait peur à tout le monde. Sur son banc, un pétard coincé entre chaque dent, Didier donne des consignes stratégiques à ses joueurs. Doucement, doucement. Attention Antoine, pousse-toi, il y a un Danois qui arrive en courant. Pousse-toi. Vas-y Antoine, dégage le ballon de touche, fais le poirier. C'est bien Antoine, allez vas-y, attrape la croquette. Fin du match, 0-0. Le match le plus nul de l'histoire du football mondial. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il pratiquement tué l'équipe de France de foot? Bien sûr, il a sa réponse.
Je ne sais pas tuer, je les ai libérés de la merde de leur vie.
Ah oui, enfin... C'est très pro comme réponse, c'est très perso surtout, c'est très égoïste au fond, bref, c'est du Nagui. Et aujourd'hui, Nagui de retour en France, probablement pour se réapprovisionner en drogue. Les forces de l'ordre réussiront-elles à l'intercepter avant qu'il retourne en Russie pour démolir à nouveau l'équipe de France avant son 8e de finale contre l'Argentine? Vous le saurez en allant voir, Nagui Sanchez est revenu. Et attention, si jamais vous le croisez, il est dangereux. N'oubliez jamais que...
C'est un malin, c'est un retors, c'est un pervers.
N'essayez pas de lui parler, abattez-le directement. Mais n'hésitez surtout pas, butez-le. Si vous ne le faites pas pour vous... Faites-le pour la France. À demain.
Merci
d'être là. La bande originale avec Nagui.
Et Laurent Lafitte, au-delà de Paul Sanchez est revenu le 18 juillet. On vous retrouvera le 26 septembre avec Un peuple sans roi de Pierre Chelet.
Et son roi.
Un peuple et,
son roi.
Et son roi, pardon. De Pierre Scheler avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel. Le 9 janvier, vous serez dans l'heure de la sortie de Sébastien Marnier avec Emmanuel Berco et Pascal Grégory. Le 19 janvier, dans Les Fauves de Vincent Mariette avec Camille Cotin et Lily Rose Depp. Va falloir lui expliquer d'ailleurs la scène de Paul Sanchez est revenu à Lily Rose Depp.
Pour la Ferrari, mais son père.
Ah oui, j'avais pas...
Va falloir lui expliquer. It was a joke.
Tu n'as pas pensé.
Pas expliquer le mot Ferrari.
Et enfin, oui, c'est Porsche.
C'est une Porsche, mais c'est une voiture. Quoi.
Et enfin, nous finirons ensemble la suite des petits mouchoirs de Guillaume Canet.
Là, c'est pour quand?
Est-ce qu'il y a une date ou arrêté?
Non, pas encore.
C'est tourné cet été.
Non, on l'a tourné. Ça y est, on a fini un mois.
D'accord.
C'est
fait.
Donc tout va bien. Et le théâtre et la Comédie Française?
Là, je joue actuellement dans la reprise de Roméo et Juliette, mis en scène par Eric Ruff, jusqu'au 25 juillet. Et je répète un Marivaux, L'heureux stratagème, qui est mis en scène par Emmanuel Domas et qu'il fera l'ouverture de la saison au Vieux Colombier en septembre.
Super. Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument. Désolé pour l'Ibis de Vierzon. Oui, au lieu du tourisme et du suicide de masse, un lieu stigmatisé par monsieur Laurent Lafitte de la Société Française de Production Théâtrale Subventionnée. Désolé pour le Var, cette région sinistrée, oubliée par la culture, mais célébrée par Nagui et le Front National. Eh oui, le Var, ce département critiqué par le parisiano-bobo Laurent Lafitte de la Société Française de Production de Spectacles de Théâtre Classique basée à Paris. Désolé pour Delphine Deplay, notre stagiaire sous-formée et
déformé, qui non seulement n'aura pas la chance de me fréquenter, mais qui, en plus, quitte la capitale pour l'Alsace, cette région de collabos, de bouffeurs, de cochons. Courage, meuf, courage.
Viens là, Delphine.
Elle arrive.
Viens là. J'ai jamais parlé au micro ou quoi?
Bonjour.
Bonjour Delphine. Bonjour. Oui, elle nous quitte. Elle a préféré Strasbourg à la vie parisienne.
À la
Delphine.
Vie tout court. Hein. Quelle audace.
Et je voulais te dire droit dans les yeux que tu allais bien nous manquer, je sais pas, mais me manquer en tout cas. Et que
merci
tu
beaucoup.
Es une belle personne, donc je ne suis pas du tout inquiet de ta réussite et ton bonheur.
Regarde
des fleurs. Des fleurs. Et même des applaudissements.
Bravo.
Pour Delphine. Belle vie à Strasbourg, ma belle. Merci Laurent Lafitte d'avoir subi cette émission.
Ah non, avec plaisir.
Et nous nous retrouvons demain pour la
on
dernière.
On a des fleurs pour Laurent.
Et demain la dernière avec Patrice Lecomte et Nicolas Stoufflet. Les carnets de campagne, c'est maintenant avec Philippe Bertrand.
Non, c'est pas lui, c'est Thomas Ndjijol. Je l'ai viré l'autre avec les recycleries et tout, les éoliennes en plastique, j'en ai ras le bol.
C'est confusant,
c'est
tellement
excellent,
l'air.
C'est excellent.
Ouais, arrêtez.
Et Philippe.
Et qui a commencé
Il est passé à table sans chaise.
Pas mal.
Ouais. Sans chaise.
C'était pas là mal. Quand on faisait avorter coûte. Il n'y avait plus les lancements.
Ben non, je pouvais pas. J'étais malheureux.
Ouais. Ben oui, je sais.
Allez, salut, bonne émission.
Salut les amis.
Ciao. Salut.